Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier et Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Bruno Gagnard-Fontanille. Aux parlementaires qui se sentiraient un peu fatigués ces temps-ci, on ne peut que conseiller de bien profiter de leur semaine de vacances à Pâques pour recharger leur batterie, car le programme qui les attend ensuite est costaud. Manuel Valls, dans sa déclaration de politique générale, vient notamment de s'engager à présenter la loi sur la transition énergétique avant l'été, puis de finaliser dans la foulée un collectif budgétaire. Exercice périlleux que celui des lois de finances rectificatives, en raison notamment de la menace exercée par le Conseil constitutionnel. Car comme le faisait remarquer le Figaro il y a quelques jours, sur la quinzaine de textes censurés, le plus souvent partiellement, par les sages depuis le début du quinquennat, la plupart avaient trait à des questions économiques ou financières. Dernier exemple en date, fin mars, la proposition de loi Florange sur la reprise des sites industriels rentables. Le Conseil constitutionnel a retoqué le dispositif visant à sanctionner les entreprises qui ne rempliraient pas leurs nouvelles obligations. Une censure devenue monnaie courante donc depuis quelques années. Certains y voient, si ce n'est un abus de pouvoir, en tout cas le signe d'un rôle de plus en plus actif du Conseil. Mais pour son actuel président, Jean-Louis Debré, si autant de textes n'arrivent pas à passer l'examen des sages sans encombre, c'est parce que les lois qui lui sont soumises sont imparfaitement travaillées. Alors nos élus savent-ils encore faire des lois? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter. Sophie Joissin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice des Bouches-du-Rhône, oui. UDI, mais vous êtes membre du groupe UMP au Sénat, vice-présidente de la commission des lois du Sénat, juriste de formation. Vous avez assisté tout à l'heure au discours de politique générale, non pas de Manuel Valls qui était à l'Assemblée, mais de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Juriste de formation, je le disais, tout comme notre deuxième invité, Alain Touré, bonsoir.
Bonsoir.
Député du Calvados pour le Parti radical de gauche. Vous avez effectué un premier mandat de député de 1997 à 2002, puis vous avez été réélu 10 ans plus tard. Ce sera sans doute intéressant aussi de voir avec vous comment vous avez vu les choses évoluer en termes de charges de travail législatif notamment. Vous êtes-vous secrétaire de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous nous avez fait l'amitié de partir avant le vote de confiance au gouvernement qui devrait se dérouler dans les prochaines minutes. Normalement, c'est bien ça?
Actuellement.
Actuellement. Et vous votez le PRG?
Tout à fait pour la déclaration du Premier ministre qui, incontestablement, va marquer les esprits tant sur les réformes économiques que sur la décentralisation. Le Premier ministre vient de dire que les régions allaient être divisées par deux, que les départements allaient être supprimés. Croyez-moi, il va y avoir du pain sur la planche, parce que s'attaquer pareillement aux féodaux locaux, ça va être dur.
Ça provoque déjà d'ailleurs beaucoup de réactions. Et notre troisième invité, c'est Dominique Rousseau. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez un intérêt plus que marqué, on va dire, pour le travail du Conseil constitutionnel et les nouveaux modes de saisine. Vous avez notamment signé des ouvrages sur la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, aux éditions Gallinot. Alors pour entamer immédiatement la discussion de ce soir, je voudrais qu'on revienne sur ce qui a motivé la problématique du jour. La loi Florange, en partie donc retoquée suite à une saisine par 108 sénateurs et 80 députés UMP. J'ai vu, Sophie Joissin, que vous n'en faisiez pas partie de ces sénateurs qui avaient saisi le Conseil constitutionnel. Est-ce que parce que vous considériez que le texte de la loi Florange était correct?
Non. Malheureusement, j'ai eu un accident grave le 13 décembre. Et effectivement, je n'étais pas là pour signer, mais l'intention y était.
Vous l'auriez signé sinon?
Je l'aurais signé.
Est-ce que vous considérez que...
Je l'aurais signé parce qu'en fait, oui, ça allait, à mon sens, contre la liberté d'entreprendre, contre l'égalité entre les entreprises. Et effectivement, non, j'étais totalement en accord avec le groupe UMP à ce moment-là.
Et quand le Conseil constitutionnel vous donne raison sur une partie du texte, c'est-à-dire sur le volet sanctions, est-ce que vous considérez que c'est le signe que ce texte, quoi, alors, était mauvais ou avait été mal préparé?
Je pense que le texte ne cadrait pas avec la Constitution, tout simplement. Vous savez, la Constitution, c'est quand même la grande loi de la République. C'est ce qui doit borner, finalement, toute loi, tout principe applicable sur le territoire de la France. Donc, pour moi, le Conseil constitutionnel, là je réponds un petit peu, enfin en partie tout au moins, à ce que vous disiez tout à l'heure, le Conseil constitutionnel ne fait pas d'abus. Le Conseil constitutionnel est là. Et doit être respecté dans ses décisions.
Bon, en général, cela dit,
c'est la loi fondamentale.
Vous m'auriez dit que sur cette loi, il faisait de l'abus alors que vous appartenez à l'opposition. Ça m'aurait un petit peu
Je ne parle pas surpris. Simplement. J'élargissais le débat à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense que, de manière générale, il est bon que la saisine du Conseil constitutionnel ait été élargie, qui est effectivement la question prioritaire de constitutionnalité, et que dans le même temps, effectivement, il puisse intervenir de plus en plus fréquemment. Mais s'il intervient aussi de plus en plus fréquemment, et dans la censure, c'est bel et bien qu'il y a un amateurisme qui a été dénoncé par son président qui va croissant. Et
alors cet amateurisme... Vous élargissez beaucoup le débat, Sophie Joissin. Non, on va y revenir, je vous promets, mais vous savez, on a 40 minutes de discussion, et je voudrais aussi donner la parole à Alain Touré et Dominique
Rousseau. Oui, mais je voudrais juste terminer ma phrase. Amateurisme n'est pas force, le fait des élus, pour moi, du législateur, mais plutôt, effectivement, du gouvernement.
Ce sera alors justement...
Parce que ce sont aussi sur les projets de loi qu'il y a des problèmes.
Votre phrase est terminée,
pas sur les propositions.
Je vous assure, sinon on ne va pas pouvoir y arriver. Alain Touré, je re-rétrécis le débat, si vous permettez, parce que voilà, vous avez abordé effectivement plein de questions, Sophie Joissin. Sur cette question de la loi Florence, je ne sais pas quelle a été d'ailleurs votre implication en tant que parlementaire sur le vote de cette loi, mais est-ce que le fait qu'il y ait une censure partielle de la part du Conseil constitutionnel, c'est la preuve, selon vous, que le texte avait été mal préparé? Alors, est-ce qu'il avait été mal préparé par les parlementaires, a priori plutôt oui, puisque c'était une proposition de loi et non pas un projet de loi.
Oui, il y a trop de lois actuellement.
C'est vrai aussi.
Trop de lois tue la loi. On connaît bien cet adage, il est parfaitement véritable. Deuxième chose, nous travaillons dans des conditions très difficiles. Nous travaillons le plus souvent en séance de nuit. Qui parmi nos auditeurs pourrait comprendre qu'on commence à travailler à 21h30 jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin? Lors des lois sur le mariage pour tous, j'ai siégé chaque fois jusqu'à 3h, 4h, 6h du matin et recommencé le lendemain matin à 9h30.
Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est si la loi Florange a été retoquée par le Conseil constitutionnel, c'est parce que les députés et les sénateurs travaillent trop?
Je n'ai pas dit ça simplement pour cette loi. Je dis que globalement, notre système de travail n'est pas satisfaisant. Nous avons trop de lois à étudier, en particulier à la commission des lois, où nous étudions 60% des textes, 60% des textes de l'Assemblée, c'est la commission des lois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un affrontement avec le Conseil constitutionnel qui n'est pas neutre, qui est politique. Le Conseil constitutionnel se veut une Cour suprême, mais ses membres sont nommés par des organismes politiques et son président, que je le sache, était un ministre de l'Intérieur de l'UMP.
Jean-Louis Debray.
Bon, donc à partir de ce moment-là, on peut concevoir, et d'ailleurs c'est une vieille tradition d'avoir des ministres de l'Intérieur président du Conseil constitutionnel. Si vous êtes sur bon, ça a commencé avec Roger Frey. Bon, il y a eu tout un certain nombre comme ça. Donc vous comprenez bien qu'il y a un affrontement politique actuellement est en jeu dans l'affaire de la loi Florange, le problème du droit de propriété. Et bien évidemment, lorsque nous avons, nous autres, hommes de gauche, une vision sur le droit de propriété, ce n'est pas forcément la même vision que celle de tout un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel.
Oui, mais vous avez quand même commencé votre intervention, Alain Touré, en disant il y a trop de lois, on
c'est
passe
exact.
Énormément d'heures en commission à travailler sur ces lois. Est-ce qu'il faut comprendre, parce que je voudrais que vous alliez au bout de votre logique, est-ce qu'il faut comprendre que cette surcharge de travail fait que parfois vous n'êtes peut-être pas assez vigilant sur des textes législatifs qui vont être censurés par le Conseil constitutionnel?
Vous avez totalement raison. Les textes qui nous sont soumis, et en particulier, il y a pas, désormais, nous n'avons pas... La loi a été totalement dévoyée. C'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser aux grands principes généraux, la loi, comme dans le Code du travail, ça concerne 5000 pages, c'est quelque chose de complètement fou. Et à partir de ce moment-là, nous avons à traiter de tout et de rien, avec des amendements qui arrivent en rafale par centaines et par milliers. Et la manière dont nous traitons effectivement les amendements sans pouvoir nous écouter les uns les autres, majorité opposition, est très inquiétante. Donc nous sommes actuellement dans une phase paroxystique, où il y a une espèce de thrombose qui se fait, et il n'y a plus véritablement un travail sur les caractères essentiels de la loi.
Alors, il y a déjà deux éléments très importants de notre discussion qui ont été abordés. Le rôle du Conseil constitutionnel et puis donc cette surcharge législative. Est-ce que vous partagez le point de vue qui vient d'être émis par Alain Touré, Dominique Rousseau ?
Pas totalement, dans la mesure où il est toujours très risqué de faire une lecture politique des décisions du Conseil constitutionnel. On s'y est exercé pour essayer de deviner la marque politique, droite-gauche, rendue par le Conseil constitutionnel. Or, le résultat de cette analyse des décisions montre qu'il n'est pas possible, sérieusement, de faire une lecture politique des décisions du Conseil constitutionnel. Parce que je pourrais, vous avez donné l'exemple de la loi Florange, mais je pourrais dire que le même Conseil constitutionnel, présidé par le même Jean-Louis Debré, a retoqué la loi sur la taxe carbone de Sarkozy, a retoqué la loi Hadopi de Sarkozy.
Est-ce que Jean-Louis Debré était le meilleur ami de Nicolas Sarkozy ?
Mais justement, c'est bien là l'indépendance. A retoqué... Voilà. La loi sur la rétention de sûreté par des réserves d'interprétation qui la rendent inapplicable. Autrement dit, il y a, si vous voulez, une logique des décisions du Conseil constitutionnel. Et dans la loi, dans la décision Florange, le Conseil constitutionnel n'a fait qu'appliquer sa jurisprudence traditionnelle de conciliation entre le droit de propriété et les droits des travailleurs. Ce que le Conseil constitutionnel refuse, ce sont des lois qui portent atteinte au cœur même du droit de propriété. Or, en l'espèce, il a considéré que la sanction interdisait aux entreprises, interdisait aux chefs d'entreprise la disponibilité de leurs biens. Et donc, il a considéré que le législateur avait fait un mauvais équilibre entre le droit des travailleurs et le droit de propriété. C'est une jurisprudence classique.
Mais c'est sa jurisprudence, vous avez dit Dominique Rousseau, ça veut dire que le Conseil constitutionnel peut aussi la faire évoluer, sa propre jurisprudence.
Il peut effectivement la faire évoluer. Et là où je serais évidemment d'accord avec Alain Touré, c'est que la question qui est posée derrière ça, c'est la question du mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel. À partir du moment où le Conseil, avec la question prioritaire de constitutionnalité, devient de plus en plus une cour constitutionnelle, eh bien, il convient que son mode de désignation soit au niveau de sa mission, c'est-à-dire qu'il soit composé principalement, pas uniquement, mais principalement, par des juristes. Parce qu'effectivement, par son mode de composition actuel, il y a une suspicion immédiate qui est portée sur ces décisions. Moi, je suis partisan de supprimer le contrôle a priori. Dans la mesure où le contrôle a priori intervient juste après le débat politique et par conséquent donne une vision politique des décisions. Je pense que le véritable contrôle de constitutionnalité se fait non pas au moment où la loi est votée, parce que les députés peuvent la voter de bonne foi, mais au moment où la loi est appliquée. C'est là qu'on voit si l'application porte atteinte à tel ou tel droit fondamental. Il faut supprimer cette connexité entre juge constitutionnel et Parlement, mais je rappellerai quand même la célèbre phrase du doyen Vedel pour calmer un petit peu les esprits sur les rapports entre Conseil constitutionnel et Parlement. Ce que disait le doyen Vedel, que je crois être très juste, le Conseil constitutionnel a la gomme, il n'a pas le crayon. Autrement dit, il efface une loi inconstitutionnelle aux parlementaires de réécrire la loi dans le cadre du respect de la Constitution. Le deuxième point sur lequel, si vous permettez, alors très juste, très rapidement, vous dites, est-ce qu'on sait faire encore des lois ? Je crois que si on élève un petit peu le débat au-delà du Conseil constitutionnel, Parlement, il y a un élément, je crois, qu'on doit prendre en compte, c'est que on ne fait pas les lois de la même manière dans des sociétés solides et dans des sociétés fluides. On était jusqu'à présent, 19e siècle, dans des sociétés solides, la classe ouvrière, les paysans, la bourgeoisie, des grands blocs. On est aujourd'hui une société d'individus. Fluide. Comment aujourd'hui déterminer l'intérêt général, puisque la loi doit exprimer la volonté générale, comment aujourd'hui construire, fabriquer la volonté générale dans une société d'individus ? C'est facile de fabriquer l'intérêt général lorsque vous avez des collectifs. Vous négociez entre les collectifs et vous arrivez à trouver l'intérêt général. Dans une société d'individus, il est beaucoup plus difficile de dégager la volonté générale. Et c'est pour ça que ce n'est pas la faute des parlementaires, ce n'est pas la faute des institutions, c'est que nous sommes dans une société où dégager l'intérêt général devient de plus en plus compliqué.
Alors, beaucoup de choses, là, à nouveau, hein, qui viennent d'être dites. Je voudrais vous faire réagir, Sophie Joissin. Je rappelle que vous êtes sénatrice, membre du groupe UMP au Sénat. Alors, revenons justement sur le rôle du Conseil constitutionnel. Est-ce que, comme parlementaire, vous sentez parfois, peut-être alors inconsciemment, une forme de pression de ce que pourraient être les décisions du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire sur les lois qui lui seront soumises? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte, peut-être jusqu'à provoquer dans certains cas une forme d'autocensure, c'est-à-dire en se disant on ne peut pas aller aussi loin parce que de toute manière on prend le risque de voir notre texte retoqué? Est-ce que ça existe?
Oui, ça existe, mais je trouve que c'est normal que ça existe. S'il y a une constitution, c'est pour qu'elle soit respectée. Et donc à partir de là, se dire à un moment donné cette disposition risque effectivement d'aller à l'encontre des droits constitutionnels, c'est une disposition d'esprit normale pour un parlementaire. Moi, je n'ai jamais trouvé d'abus, même lorsque la décision du Conseil constitutionnel ne me satisfaisait pas pleinement, je n'ai jamais décelé d'abus réel du Conseil constitutionnel, pour ma part.
Alain Touré ?
Oui, l'observation que je ferai est la suivante. Le Conseil constitutionnel n'est pratiquement saisi que par l'opposition. Parce que par définition, c'est la majorité qui vote la loi. Et à partir de ce moment-là, c'est toujours l'opposition qui saisit le Conseil constitutionnel. Vous me direz, c'est bien normal, mais ça crée tout un état d'esprit. C'est-à-dire que pendant un quinquennat, vous n'allez être saisi pratiquement que par l'opposition.
Donc c'est un outil utilisé par l'opposition comme un contre-pouvoir supplémentaire.
Exactement. C'est la pression de l'opposition auprès du Conseil constitutionnel. Et chaque fois, dans tous les débats, nous entendons « et nous saisirons bien le Conseil constitutionnel, et vous verrez ce qu'il va faire, et vous verrez ce qu'il va faire ». Alors que c'est peut-être... et monsieur le professeur Rousseau pourra peut-être nous dire cela, peut-être qu'il pourrait y avoir une autre vision. Peut-être qu'il pourrait y avoir la possibilité, en réalité, d'en faire un organe de saisine, par moment, à titre de conseil. Alors vous me direz, il y a le Conseil d'État qui est susceptible de faire cela.
Bien devant le micro, s'il
vous
plaît.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de concevoir autrement le rôle du Conseil constitutionnel que par cette saisine systématique par l'opposition?
Mais oui, mais comme vous l'avez dit, il y a le Conseil d'État qui est là.
On en fait à partir de ce moment-là un allié de l'opposition, fatalement.
Oui, il faut partir d'un principe qui est effectivement nouveau pour dans la culture juridique et politique française, c'est que depuis 200 ans, on vivait sous le principe suivant, la loi est l'expression de la volonté générale. Article 6 de la Déclaration de 1789. Depuis la fin des années 1980, la formule est la suivante. Je cite le Conseil constitutionnel, décision du 23 août 85, « La loi votée n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » Autrement dit, une loi aujourd'hui n'exprime la volonté générale que si, un, elle est votée, deux, si elle est conforme à la Constitution. S'il manque un élément, elle n'est pas loi. Et par conséquent, on a aujourd'hui un mode de fabrication de la loi qui est beaucoup plus compliqué qu'avant. Vous avez le gouvernement qui dépose un projet, parce que quand même 80-90% des lois sont d'origine gouvernementale. Ensuite, vous avez l'étude de la loi par le Conseil d'État. Ensuite, vous avez la loi qui vient devant le Parlement pour être discutée par les parlementaires et qui va être amendée parfois parce que les groupes d'intérêt auront filé aux parlementaires des amendements, ce qui fait que la loi va être incohérente parce qu'il va y avoir des amendements contradictoires qui vont être introduits pour satisfaire tel ou tel groupe d'intérêt. Vous avez ensuite le Conseil constitutionnel qui intervient pour dire si c'est dans les rails constitutionnels ou pas. Et puis après, il ne suffit pas que la loi soit votée, il faut qu'elle soit appliquée. Et puis après, vous allez avoir les juges qui vont interpréter les mots que le législateur a mis dans la loi pour appliquer à chacun la loi. Autrement dit, vous avez au moins 5 acteurs qui participent à l'écriture de la loi. Donc il ne faut pas accuser les parlementaires. Les parlementaires ne sont pas les seuls écrivains de la loi. Parmi les écrivains de la loi...
Ils ont quand même une responsabilité. Ils ne sont pas non plus totalement absents de la production des textes.
Votre question portant sur les parlementaires, je voulais préciser que le Parlement n'est qu'un moment de la chaîne de production de la loi. Il y a le gouvernement, il y a le Conseil d'État en amont, il y a le Conseil constitutionnel en aval, et les juges qui appliquent la loi et qui parfois peuvent l'appliquer de manière différente de ce qu'avait pu penser le législateur.
Sophie Joissin.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Dominique Rousseau. Dans le même temps, pourquoi pas effectivement réfléchir au mode de non seulement au mode de saisine du Conseil constitutionnel, mais aussi aux membres. Pourquoi ces membres-là ? Sont-ils vraiment des juristes ? Ne le sont-ils pas ? Je pense qu'effectivement, il y a une réflexion saine sur ce sujet.
Oui, parce que même si la suspicion est injustifiée, suspicion, elle existe.
Voilà. Elle existe.
Elle est pour moi injustifiée parce qu'effectivement, par exemple, les trois dernières personnes nommées au Conseil constitutionnel l'ont été par le nouveau président de la République, Père François Hollande.
Pas les trois. Hein. Un président de l'Assemblée.
Voilà. Oui, mais enfin, de la même majorité, je voulais dire, pardon, je me suis trompée. Mais, et après, si cette personne a l'élévation de sa fonction et qu'elle y correspond de manière déontologique, pour moi, il n'y a pas de problème.
Oui, n'empêche que, si vous permettez, il n'empêche que le mode de désignation actuel...
Mais, effectivement, on peut ouvrir une réflexion là-dessus.
Le mode de désignation actuel, et ça, vous avez raison, si vous voulez, il n'y a pas simplement l'impartialité, il faut donner l'apparence de l'impartialité.
Or, évidemment... Et d'une légitimité.
Quand le président du Conseil constitutionnel... Quand le président du Conseil constitutionnel, je ne parle pas de celui-ci, quand le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République, quand Mitterrand nomme Badinter, bon... Que vous le vouliez ou non, le premier réflexe est de dire bon, Badinter ne va pas être méchant avec Mitterrand. Quand Chirac nomme Debray, c'est peut-être faux. Il n'empêche qu'au niveau de l'apparence, il n'empêche qu'au niveau de l'opinion
c'est
publique,
ressenti comme tel.
C'est ressenti comme ça. Et il n'y a rien de plus terrible pour la justice que le soupçon.
C'est vrai.
Il n'y a rien de plus terrible pour la justice que le soupçon. La seule manière de lever le soupçon, c'est de modifier le mode de désignation des juges constitutionnels. Excusez-moi, dégager les anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel. Ils n'ont strictement rien.
On en est où, ça, d'ailleurs, parce que c'est
pour l'instant,
ce que disait François Hollande, il voulait faire cette réforme-là.
Comme beaucoup de choses, rien. Donc, sortir les présidents de la République du Conseil constitutionnel, je dirais, c'est la moindre des choses. Et là, il pourrait y avoir, entre la droite et la gauche, un accord sur cette proposition, je crois, de bon sens. Et puis, exiger des futurs membres du Conseil constitutionnel, qu'ils aient au moins des compétences et une expérience en matière juridique. Je ne demande pas qu'il n'y ait que des juristes au Conseil constitutionnel. Je dis que la moindre des choses, c'est que lorsqu'on demande à un juge d'examiner sur le plan juridique et pas sur le plan politique une loi, il vaut mieux que ce soit des juristes de formation et d'expérience qui fassent ce travail.
Alors, d'accord avec cette analyse.
Si on fait cette demande pour les membres du Conseil constitutionnel, Alain Touré, est-ce qu'il faudrait aussi la formuler de manière à peu près identique s'agissant des parlementaires, ceux qui produisent la loi ? Alors, soit ceux qui réécrivent, qui travaillent sur les textes, soit ceux qui vraiment l'élaborent quand il s'agit de propositions de loi. Est-ce qu'il faudrait, peut-être pour que le travail soit mieux fait, puisqu'il y a quand même là aussi des critiques sur le travail qui est fait par les parlementaires. On va revenir sur les propos qui ont été ceux de Jean-Louis Debray début janvier au moment des vœux du président de la République. Est-ce qu'il faudrait que les parlementaires, s'ils n'ont pas une formation de base de juriste, aient au moins une formation lorsqu'ils deviennent des élus pour mieux savoir rédiger les lois ?
Alors, je vais vous répondre sur deux choses. La première chose, en ce qui concerne la composition même du Conseil constitutionnel, il faut une révision de la Constitution.
Oui, mais là, je voudrais que vous répondiez. Si vous pouvez répondre à mes questions, ça serait quand même beaucoup plus simple pour qu'on avance, parce que répondez chacun un petit peu de votre côté. Donc, sur la question de la compétence des parlementaires à écrire des lois, j'aimerais avoir votre avis, Alain Touré.
Pour être député, il ne faut pas forcément être professeur de droit. Je le dis à M. Rousseau, on n'est pas de plein droit député parce qu'on est
tel ou tel juriste. Je ne tiens pas du tout à être député.
Et moi, je ne tiens pas à être professeur de droit, j'ai quitté cette profession. Donc,
Moi, je ne la quitterai jamais.
Alors, en dehors de ces amusements, il y a deux sortes de façons de faire la loi. Il y a la loi qui arrive par le Parlement et la loi qui arrive par le gouvernement. Les propositions de loi sont désormais très nombreuses. Mais... elles sont en général sur des objets courts et restreints. Pour une bonne raison, c'est que globalement, nous avons une niche parlementaire. Nous, en tant que radicaux de gauche, par exemple, nous en avons une par an. Une par an pendant une journée. Et nous ne pouvons pas dépasser ce délai de la journée. Donc il faut que toute la loi soit étudiée dans la journée.
Donc il faut que ça soit formaté pour que ça aille vite.
Exactement. Il faut que ça soit formaté pour que ça aille vite. Et sinon, la loi ne peut pas passer. elle est renvoyée à une autre date. Et à partir de ce moment-là, ça, c'est extrêmement grave. Parce que le Parlement, lui, quand il est saisi par un texte du gouvernement, il peut être amené à siéger pendant 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, jusqu'à épuisement. Donc là, on a une différence de traitement extrêmement forte. Deuxième chose, est-ce que les parlementaires travaillent bien ou pas ? Il faut savoir qu'ils ont quand même des personnes pour les aider. Et lorsque vous déposez dans le cadre d'une niche parlementaire une proposition de loi, vous avez les administrateurs de l'Assemblée nationale qui, je dois vous le dire, c'est un corps de juristes remarquables. D'un corps de juristes remarquables qui travaillent avec nous. Moi, je viens de travailler pendant 9 mois avec eux sur le projet des révisions des décisions pénales. On a affaire vraiment à des personnes de grande qualité. La différence viendrait peut-être lors des amendements. Parce que les amendements, eux, ils ne sont préparés et soumis par personne. Alors c'est vrai, il y a des lobbies qui nous adressent des amendements tout préparés. Et quand vous vous dites, bon, après tout, comme on est soumis à un certain contrôle par des groupes qui regardent si on a déposé beaucoup d'amendements ou pas, on a à partir de ce moment-là des parlementaires qui additionnent les amendements, même sans les avoir lus.
Parce que ça permet de dire à vos élus, par exemple, regardez, voilà, j'ai fait ce que vous me demandiez. Alors voilà. Ça n'a pas marché, mais enfin je l'ai fait
vous
quand même.
Vous prenez le site nosdéputés.fr et vous regardez exactement le nombre d'amendements que chaque député a déposé sur chaque loi. Donc je le dis, donc il y a une forme de pression extraordinairement forte là-dessus, qui est, vous me demandiez, qu'est-ce qui a été de différent entre 1997 et 2002, quand j'ai siégé, et maintenant. Tout ça, ça n'existait pas. Nous sommes soumis à une pression beaucoup plus forte actuellement de la part de ceux qui nous surveillent et qui, en plus, à partir de ce moment-là, utilisent cela dans le cadre de nos circonscriptions. Il y a là une pression sur le parlementaire qui n'existait pas auparavant.
Sophie Joissin, sur cette pression sur les parlementaires.
Oui, mais je suis complètement d'accord. Effectivement, il nous arrive de recevoir, selon les thématiques abordées par les projets, par les propositions de loi, des liasses entières de lobbyistes, d'amendements de lobbyistes.
Et alors, vous en faites quoi dans ces cas-là ?
Moi, je les jette. Immédiatement. Je les jette parce que j'estime que c'est mon travail de parlementaire qui est remis en question. Et je ne trouve pas ça normal. Et encore une fois, la loi, elle est l'expression. Elle doit servir l'intérêt général. Elle ne doit pas servir les intérêts catégoriels. Et Jean-Paul Delevoye l'avait d'ailleurs bien remarqué dans le rapport qu'il avait conclu il y a 2 ans, en disant, effectivement, l'intérêt général est totalement dilué aujourd'hui en France. Nous sommes face à des sommes d'intérêts catégoriels. Et je crois que notre travail devrait être justement d'essayer de balayer tout ça, de revenir à un corpus juridique qui soit beaucoup plus restreint, avec des principes généraux applicables à tous les niveaux. Là, on est sans arrêt en train de faire des régimes spéciaux, finalement, d'établir des exceptions aux exceptions. Et ça, je crois que c'est très préjudiciable, effectivement, à l'acception juridique que nous avons des différentes lois en France.
Dominique Rousseau.
Oui, trois points qui recoupent un peu ce qu'a dit tout à l'heure Alain Touré sur la loi, il y a trop de lois et la loi, toute la loi. Je crois que il y a aujourd'hui une tendance à vouloir faire une loi chaque fois qu'il y a un problème.
Ouais.
Bon, vous dégainez un fait divers aux 20h, le lendemain matin, il faut qu'il y ait une proposition de loi ou un projet de loi. Et ça, je trouve que c'est désastreux parce que la loi devient un instrument de communication et non pas un instrument de régulation de la société. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait, une meilleure compréhension par l'ensemble du système de production de la loi, j'ai bien système de production, mais pas uniquement le Parlement, pour dire c'est pas parce qu'il y a un événement, c'est pas parce qu'il y a Florange, c'est pas parce qu'il faut immédiatement faire une loi. Il y a peut-être dans le dispositif déjà existant les moyens de régler le problème. Donc arrêtons de répondre aux faits par une nouvelle loi, premièrement. Deuxièmement, si on regarde, alors je n'ai pas les statistiques en tête, hein, mais je crois que Jean-Jacques Urvoas l'avait fait pour l'ancienne législature et je pense malheureusement que ça a continué.
Président de la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Président de la commission des lois actuellement. Le recours, à mon avis, trop fréquent à la procédure d'urgence.
Oui.
Le recours très fréquent à la procédure d'urgence qui fait, comme son nom l'indique, que les lois sont examinées en urgence. Donc, on limite le nombre de navettes, on limite le nombre de temps de parole, ce qui fait qu'évidemment, le texte étant rédigé en urgence, ben, parfois, il peut y avoir des choses qui passent à travers, ou qui sont mal rédigées, ou qui sont un peu brinque-ballantes. Le troisième élément, alors là, évidemment, je ne suis pas élu, donc je suis irresponsable. Le troisième élément, c'est la question du cumul des mandats. C'est-à-dire, je pense que avec la fin du cumul des mandats, ou en tous les cas, la limitation du cumul des mandats, le fait que les parlementaires soient davantage présents à l'Assemblée nationale et au Sénat vont peut-être permettre aux parlementaires de se réapproprier le travail d'écriture de la loi. Parce que si vous regardez dans les pays étrangers, le Parlement allemand n'a pas moins de compétences ou plus de compétences que le Parlement français. En revanche, il a des députés qui sont présents et qui participent dans les commissions à l'élaboration de la loi. Mais d'une certaine manière, le député Alain Touré l'a montré par les rédactions en binôme. Des propositions de loi qui sont souvent celles qui vont le plus loin. Donc la question du cumul n'est pas, de mon point de vue, négligeable.
Et vous serez peut-être moins soumis à ces lobbies dont vous parliez, Sophie Joissin.
Moi, je n'y suis pas soumise. Mais néanmoins, ils existent. Et je sais qu'il y a des pressions qui sont exercées sur les parlementaires. C'est ce que je déplore. Je voudrais venir sur le cumul des mandats. Parce que là, en revanche, je n'ai pas la même analyse parce que je pense qu'on doit limiter le cumul des mandats. Mais en revanche, il me semble important que quand on a un mandat national, on puisse aussi exercer un mandat local.
Mais quand on a un mandat national et seulement un mandat national, on a davantage de temps pour travailler sur les textes législatifs.
On est souvent bien plus soumis. Bien plus soumis aussi parce qu'on n'a pas de terrain, d'une certaine manière, soumis aux directives des partis politiques. Et je pense que l'indépendance des parlementaires est aussi une chose importante. On peut avoir des tendances, mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans l'incapacité de réfléchir effectivement aux lois, aux propositions de loi ou aux projets qui nous sont soumis justement par des partis.
Voilà, on a évoqué les propos de Jean-Louis Debré, mais sans vraiment les citer, il faudrait quand même dire ce qu'il a dit.
Et je voudrais revenir aussi sur une chose, c'est que cumul... Mais oui, mais j'ai moins parlé que les autres. Le cumul des mandats, c'est aussi le moyen, je dirais, d'être confronté au terrain, véritablement.
Et ce n'est pas une émission sur le cumul des mandats. Il est déjà 18h52.
Il y a quand même une crainte, c'est d'être dans la théorie, plus la théorie. Quand on est uniquement à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est qu'à un moment donné, on s'éloigne et entre la théorie et la pratique, il y a souvent un gouffre.
Bon, alors, dois-je en conclure que vous ne voulez pas que je parle de Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, le 6 janvier dernier, les vœux de François Hollande au Conseil. Et voici ce que dit Jean-Louis Debré. Alors, normalement soumis au devoir de réserve, mais là, il s'est un petit peu lâché en disant notamment ceci. Le Conseil a aujourd'hui à connaître des lois aussi longues qu'imparfaitement travaillées. Il évoque des dispositions incohérentes et mal coordonnées, des textes gonflés d'amendements non soumis à l'analyse du Conseil d'État. Donc, il est vraiment dans le manque de professionnalisme. Mais alors, de qui ? Est-ce que vous vous êtes senti visé, vous, Alain Touré, comme parlementaire ? Ou est-ce que vous pensez que c'est d'abord le gouvernement qui était dirigé les piques du président du Conseil constitutionnel ?
Jean-Louis Debré est très excessif quand il dit tout cela. Il y a une part de vrai, mais il y a une part d'excessif. Alors, il faut faire la part entre les deux choses. Bon, je pense qu'il n'a pas quitté sa culture d'homme politique qui a un besoin, à un moment donné, puisque le président Chirac n'est plus là, de faire parler de lui. Voilà. Bon, je pense maintenant...
Il n'y a peut-être pas que ça. Il dit par exemple qu'il en a marre de se retrouver avec des textes qui ont déjà été retoqués une fois, qui reviennent avec des formulations un petit peu différentes et qu'il va devoir retoquer.
Là, il a raison. Mais parce qu'il y a une opposition politique qui se fait... Le Parlement, sur tel ou tel texte, estime qu'il a raison d'avoir telle ou telle position. Il se heurte politiquement, et pas simplement, forcément, juridiquement, au Conseil constitutionnel. C'est tout le problème. Le Conseil constitutionnel n'est pas, selon les parlementaires, assimilable à une Cour suprême telle que ça peut exister aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un affrontement, par moment... frontal, c'est le cas de le dire, qui peut se faire à ce niveau. Voilà ce que je veux dire là-dessus. Et c'est l'explication du caractère excessif de Jean-Louis Debré. Moi, si vous voulez, la manière dont la loi est préparée et votée tient au problème de l'article 34 et de l'article 37 de la Constitution. Normalement, nous devrions, grâce à l'article 34 de la Constitution, nous intéresser aux principes généraux. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Et je reproche gravement au Conseil constitutionnel de ne pas sanctionner les lois qui sont en réalité, qui ne sont pas des lois, qui sont des textes réglementaires qui sont utilisés sous la forme de loi. Et ça, le Conseil constitutionnel, il a tort de ne pas sanctionner ça, parce qu'on aurait une répartition beaucoup plus forte entre les principes généraux de l'article 34, je prends le code du travail. Prenez le code du travail, il y a 5000 pages. Sur les 5000 pages, il y en a 4500 législatives, alors qu'il devrait y en avoir peut-être 100 ou 200. Voilà, on légifère sur tout. Alors que c'est le règlement qui devrait faire ça. Et le Conseil constitutionnel ne sanctionne pas. Il a bien tort.
Il s'occupe des lois pour lesquelles il est saisi. Hein,
mais il est saisi sur tout.
Sophie Joissin, vous, est-ce que vous partagez davantage, alors le diagnostic qui a été fait par Jean-Louis Debray, ces lois imparfaitement travaillées ?
Je pense que les lois sont imparfaitement travaillées, effectivement, parce qu'elles sont... surgissent de l'urgence, du besoin de réforme. Et je pense qu'en ce moment...
Chose que l'on reprochait énormément sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Je pense qu'effectivement, les réformes ont démarré à ce moment-là, dans l'urgence, effectivement. Mais aujourd'hui, le mouvement s'est accéléré. Et évidemment, la loi est de plus en plus imparfaite et ne correspond plus à ses critères premiers. Et je pense qu'il y a un emballement qui est très préjudiciable à la stabilité du pays. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, on privilégie la réforme pour la réforme. Mais la stabilité est totalement négligée et ça devient dangereux.
Vous entendez par quoi par la stabilité du pays ?
La stabilité, c'est-à-dire que comment voulez-vous que le citoyen puisse se projeter dans l'avenir s'il pense que dans 2 ans, il y aura une autre loi qui viendra corriger celle qui vient d'être votée ? Ce n'est pas possible. Donc c'est une stabilité, c'est une fluidité, c'est un immobilisme.
Je reviens sur la question du Conseil constitutionnel que vous posez. Je crois que faire une lecture politique des décisions du Conseil constitutionnel est très aléatoire. Du point de vue du professeur de droit, quand je regarde, hein, parce que moi je pourrais aussi... Alors on peut donner des anecdotes.
Quand vous dites politique, ça veut dire partisane dans votre
Absolument,
esprit ?
Absolument, partisane.
Parce que politique, ça peut aussi avoir une autre signification. Voilà. Quand le Conseil constitutionnel censure la taxe sur les 75% d'impôts sur les revenus, en disant, et c'est d'ailleurs Jean-Louis Debray qui à l'époque avait dit, nous avons cru devoir faire ce que nous avons fait pour éviter les impositions excessives. Est-ce que là, il ne va pas justement sur un terrain politique qui n'est peut-être pas censé être le sien ?
Non, dans la mesure où il y a un article dans la Constitution qui prévoit précisément que les impositions doivent respecter les capacités contributives des contribuables sans porter atteinte excessive à l'imposition. Donc, si vous voulez, le Conseil, dans cette décision sur les 75%, le Conseil a appliqué une jurisprudence qu'il avait déjà construite avant. Donc, moi, je pourrais vous donner des exemples. Il y a un ministre de la Justice, dont je tairai le nom, qui, lorsqu'il a fait voter une loi, a dit ceci. Je sais que ma loi comporte des éléments inconstitutionnels. Je demande à l'opposition de ne pas saisir. Et le président du Conseil constitutionnel de l'époque, qui était le président Mazot, lui a répondu, alors qu'ils étaient partenaires à la même majorité politique, le président Mazot a répondu, respectez la Constitution n'est pas un risque, c'est un devoir. Donc, on a tous des exemples à donner. Vous dites, voilà, regardez, le conseiller de droite, il va sanctionner la majorité de gauche. Le conseiller de gauche, il va sanctionner la majorité de droite. On peut le faire.
Donc, il n'y a jamais d'abus de saisine du Conseil constitutionnel.
Alors, c'est là où j'en reviens à ma proposition de tout à l'heure. Il faut supprimer le contrôle a priori. Tant que vous aurez le contrôle a priori, vous aurez toujours... la critique de la gauche disant le Conseil est de droite, donc il censure mes lois. Vous aurez toujours ensuite la droite disant le Conseil est de gauche, donc il censure mes lois. Tant qu'on n'aura pas déconnecté le moment du contrôle de la loi, du moment du vote de la loi, on aura toujours cette lecture politique et qui est dramatique pour la stabilité, pour la sérénité du débat politique. Et juridique français.
D'un mot, Sophie Joissin et Alain Touré, est-ce que la droite et la gauche peuvent tomber d'accord sur cette proposition formulée par Dominique Rousseau ?
Ça demande réflexion. Ça demande réflexion parce que sans le contrôle a priori, la loi qui pourrait être appliquée pourrait être justement contraire à la Constitution. Donc ça voudrait dire qu'on tolérerait qu'une loi soit appliquée alors qu'elle est contraire à la Constitution.
Réflexion aussi pour
donc hors République.
Sans amputer les droits du Parlement de manière très importante et les droits de l'opposition. Car l'opposition peut réguler la loi par sa saisine du Conseil constitutionnel.
Bien sûr. Car n'oublions pas que quand on est un jour dans la majorité, on peut se retrouver le lendemain dans l'opposition. Merci
et
beaucoup.
Et ça va plus vite qu'on ne le croit.
Et l'inverse est en vrai également. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion.
Merci.
Sophie Joissin, Dominique Rousseau, Alain Touré. Je précise que sur notre site, nous avons un bonus d'un collaborateur parlementaire pour le groupe Europe Écologie Les Verts. Il co-anime le blog Les Cuisines de l'Assemblée. Il est interviewé par Mina Fezzi. Il explique un petit peu aussi comment se passe le travail. travail du côté des collaborateurs parlementaires. Demain, après le discours, donc c'est l'après-midi de politique générale de Manuel Valls et les annonces qu'il a faites, nous poserons la question suivante. Après le ras-le-bol fiscal, va-t-il y avoir un Noël fiscal? Ce sera donc demain à partir de 18h20.